Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la question de la conscience est vraiment primordiale dans la lutte entre les deux cités, dans la crise actuelle, si vous voulez. Qui dit conscience dit dépendance. Pour nous. Qui dit conscience dit dépendance. Pour les révolutionnaires, qui dit conscience dit indépendance. Il est évident que si nous nous mettons dans la dépendance, nous mettons du coup toute notre vie en ordre. Il est évident, au contraire, que si nous nous mettons dans l'indépendance, à ce moment-là, les conséquences sont multiples, graves, parce que indépendant de Dieu, c'est-à-dire révolté contre Dieu, dépendant de qui ? Si on dépend d'autre chose que de Dieu, alors cela veut dire que ces choses-là prennent la place de Dieu, prennent la place de Dieu pas seulement par le péché mortel, mais presque par principe. C'est toute une révolution. Et le diable le sait bien, le démon le sait bien. C'est pour ça qu'il a, avec patience, favorisé ces erreurs, ces fausses philosophies, ces fausses affirmations. Il faut donc que nous revenions à la vraie conscience chrétienne, et pour cela, il faut que nous revenions à la dépendance. Quels sont les motifs d'indépendance? Les motifs modernes surtout, les motifs mis en avant par le monde moderne pour ridiculiser le chrétien, le bon chrétien qui dépend de Dieu. Je crois, de façon très concrète, qu'un des premiers motifs mis en avant, c'est l'utilitarisme, à savoir, il faut être efficace, il faut réussir, il faut obtenir un résultat. Bref, on laisse tomber les principes. Encore une fois, quand on parle de principes, on va dire « Oh, c'est quand même très théorique, est-ce que cela vaut la peine vraiment de presque de donner sa vie pour des principes ?» Mais si on traduit, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais j'y reviens parce que c'est important, si pour nous les principes sont les règles que Dieu a donné à la création, à l'homme, à notre action, alors à ce moment-là, les principes, évidemment, étant les règles de Dieu, sont tout à fait primordiaux, et par conséquent, négliger un principe, cela va beaucoup plus loin que quelque chose de théorique, c'est vraiment se révolter contre Dieu. L'utilitarisme, vous voyez, c'est un vice qui a été très développé en Amérique, qui ne voit les choses que par le petit bout de la lorgnette, ou qui voit les choses immédiates. On ne travaille pas pour l'éternité, on travaille pour un résultat qui plaît. Le remède contre ça, tout d'abord, il faut croire à l'action de la Providence et accepter les mystères de la Providence. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, si le grain ne tombe en terre et s'il ne meurt, il ne produit pas de fruits. La Providence, très souvent, demande que le grain tombe en terre et meure pour pouvoir produire du fruit. Et l'utilitariste trouve qu'il est dommage de gâcher du si bon grain. Il ne veut pas voir le mystère de la vie qui dépend de Dieu, et par conséquent, il refuse de laisser le grain mourir pour ne pas le perdre, et que se passe-t-il ? Il n'a pas de moisson. Pourquoi le bon Dieu demande-t-il le martyre à un évêque, par exemple, surtout un évêque jeune, qui pourrait faire beaucoup de bien en vivant plus longtemps ? Parce que le martyre est semence de chrétiens. cela ne se voit pas. Cela ne se voit pas. Et même quelquefois, le bon Dieu veut punir un peuple qui n'est pas digne de son évêque, et le bien que le bon Dieu tire du martyr, de l'évêque, outre la fidélité de l'évêque, mais c'est une remise en ordre, quelquefois une punition du peuple chrétien, ce sont des mystères qui nous dépassent, et nous ne pouvons pas juger, ça serait trop facile de dire, très bien, l'évêque est martyr, il y en aura deux autres d'une au moins aussi bons que lui, donc cela vaut la peine. Dans cet ordre-là, une moisson à deux pour un, c'est bien rentable. Alors on ne peut pas raisonner comme cela. J'ai eu beaucoup de cas qui m'ont été présentés par des infirmières où on a la tentation de violer la loi de Dieu pour sauver une vie. Mais il faut nous rappeler qu'il y a une grande différence entre l'impossibilité physique et l'impossibilité morale. L'impossibilité physique, par exemple, vous avez un incendie dans la maison et puis vous cherchez à casser la porte pour sortir, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes bloqué, enfin, rien ne vous empêche d'essayer de passer outre, de faire disparaître cette impossibilité physique, de casser la porte et de vous échapper. L'impossibilité morale, c'est autre chose. L'impossibilité morale, c'est une situation dans laquelle Dieu nous fait perdre un bien particulier pour un bien plus grand, dans laquelle il nous demande de respecter sa sagesse, et donc on n'a jamais le droit de passer outre une impossibilité morale. Ça serait si simple de faire, que sais-je moi, un avortement pour sauver la mère. Mais si le bon Dieu a voulu, dans sa providence, que la mère et l'enfant meurent, il a ses raisons, il est le maître de la vie et de la mort. Je sais bien que ce sont des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Et je sais bien que une femme, quand je prends cet exemple-là, se sent très vite blessée. Cependant, beaucoup de femmes se sont trouvées dans cette situation. Et on a eu des femmes héroïques. Moi, j'en ai connu une à Saint-Nicolas-du-Chardonnay qui a refusé la perte de son enfant. Son enfant a été sauvé. Elle a dit à son mari, tu me feras enterrer dans ma robe de mariée. Ça a été l'unique enfant qu'ils ont eu. C'est très beau, cette fidélité, vous voyez, à la fois conjugale et donc à la fois de Dieu. Il faut faire l'application à la situation présente dans la crise de l'Église. Le bon Dieu nous demande d'être fidèles à la tradition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On regrette de perdre des gens, on regrette de perdre des fidèles, on regrette d'être calomnié. On se dit, ah, si j'étais un petit peu moins exigeant sur la tradition, sur la fidélité à Dieu, je ne serais pas calomnié, je pourrais faire du bien. C'est le grand problème de tous les conservateurs aujourd'hui qui laisse tomber, mais je vous en parlerai une autre fois parce que c'est du libéralisme ça, et cela mérite un sermon à lui tout seul, qui laisse tomber la sagesse de Dieu pour, soi-disant, mieux sauver les âmes. Mais comment peut-on sauver les âmes sans leur donner ce que Dieu a à leur donner? Comment peut-on sauver les âmes si on leur donne des demi-vérités, des demi-exigences, finalement, si on va dans le sens de l'ennemi? C'est le grand problème aujourd'hui. Il fut un temps où la fidélité, les fruits de la fidélité étaient évidents. Aujourd'hui, les fruits de la fidélité ne sont pas évidents. Notre devoir, bien compris, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a confié. Monseigneur Lefebvre nous a très souvent dit, au jugement, Dieu me dira, qu'as-tu fait de ton épiscopat? Et nous, prêtres, nous devons nous dire, au jour du jugement, Dieu me demandera, qu'as-tu fait de ton sacerdoce? Et vous, fidèles, le bon Dieu vous demandera, au jour du jugement, qu'as-tu fait de ton mariage, de tes enfants, de ce que j'attendais que tu leur donnes? Et puis dans la société également, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés Comment les as-tu fait fructifier? Combien de fois il m'est arrivé, du vivant de Monseigneur Lefebvre, d'être surpris par certaines de ses décisions. Et à chaque fois, je me disais, parce que je connaissais la sagesse de Monseigneur Lefebvre, je la connaissais doublement, si je puis dire. Je la connaissais d'expérience, parce qu'à chaque fois que Monseigneur Lefebvre avait pris des décisions, la suite avait montré sa grande sagesse. Puis je la connaissais par principe, parce que Monseigneur Lefebvre étant un homme de principe, cela incite à faire confiance, même dans les situations très surprenantes. Et de fait, à chaque fois, je m'apercevais que non seulement Monseigneur Lefebvre n'avait pas eu tort, non seulement il avait eu raison, mais il avait fait preuve d'une sagesse bien plus grande que celle que je croyais. C'est aussi comme cela, vous voyez, qu'on se forme. Petit à petit, on apprend à voir les choses autrement, on apprend à dépendre du bon Dieu, on apprend ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Je me rappelle un confrère que Monseigneur Lefebvre avait mis à la porte de la fraternité à cause de son cédévacantisme amer, une manière amère de présenter les choses dans la crise de l'Église, et puis du coup qui faussait tout. Il passe me voir, parce qu'il y avait intérêt. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous avez la solution du problème. Évidemment, il regrettait d'être mis en dehors de la fraternité Saint-Pédis, parce qu'il admirait quand même Monseigneur Lefebvre, qui ne l'admirait pas. Je lui ai dit, vous avez la solution. Et il m'a dit, anxieux, mais laquelle, donnez-la-moi. Et je lui ai fait signe de se mettre un verrou sur la bouche pendant 6 mois. Je lui ai dit, taisez-vous pendant 6 mois. Dans 6 mois, vous serez en paix et vous verrez que Monseigneur Lefebvre avait 1000 fois raison. Et il me répond, ah ça non, je dois parler. Ah ben, je lui ai dit, à ce moment-là, c'est terminé. Et qu'est-ce que cela veut dire, je dois parler? Ça veut dire, ma conscience prime la sagesse. C'était fait une obligation de conscience de parler. La deuxième raison mise en avant par les ennemis de Dieu pour rendre la conscience souveraine, c'est l'égoïsme. Penser à nous-mêmes, oui. Ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de justification, et du moment qu'on favorise leur égoïsme, nous les premiers, hélas. Quel est le remède contre cela? Le remède, c'est d'abord de penser que nous sommes au service non seulement de Dieu, mais de toute la société. Je vous l'ai dit, c'est l'apostolat rentré dans les vues de Dieu. Nous sommes au service du bien commun, nous sommes au service d'un bien qui nous dépasse. Et le remède, c'est le dévouement. L'homme a été créé pour honorer, louer et servir Dieu. Le dévouement. Et nous serons jugés sur les œuvres de miséricorde. Venez à ma droite les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, etc. Et vous avez pris soin de moi. Et allez à ma gauche, maudit au feu éternel, parce que j'avais faim, soif, etc. Et vous avez négligé de vous occuper de moi. Et notre Seigneur précise ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens. C'est à moi que vous l'aurez fait. Au plus petit, il n'a pas dit ce que vous aurez fait à quelqu'un. Au plus petit, parce que justement, l'utilitarisme nous empêche d'aller vers le plus petit. Elle va vers ce qui est efficace. Ce sont les œuvres de miséricorde. Œuvres de miséricorde corporelle, celles que je vous ai énumérées à la suite de notre Seigneur, et puis, évidemment, leur correspondant spirituel, enseigner la vérité, donner des bons conseils, corriger les pécheurs, pardonner les injures, supporter les injustices, prier pour les vivants, les morts, nos amis, nos ennemis, les œuvres de miséricorde spirituelle qui sont absolument indispensables. Notre vie devrait être marquée par la miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux. Parce que la miséricorde nous fait sortir de nous-mêmes et la conscience nous fait rentrer en nous-mêmes. Et à ce propos, je voudrais vous donner une précision. Entre distraction et détente. Ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui se distrait ne pense qu'à lui. Celui qui se détend reprend des forces pour le service de Dieu. Rien n'empêche d'aller se promener. C'est de la détente. Mais vous voyez, la plupart du temps, quand on regarde un film, que ce soit la télévision ailleurs, peu importe, ce n'est pas de la détente, c'est de la distraction. C'est-à-dire, on sort de son devoir. On en a assez de son devoir. On n'a pas envie de faire son devoir. Et par conséquent, on s'accorde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que ça surprend ce que je dis. On va dire, il est légitime de se distraire. Non, il est légitime de se détendre. Et ça, saint Thomas en parle. On ne peut pas toujours tirer sur la corde, sinon elle rompt. Donc il faut savoir la détendre. Donc il est nécessaire de se reposer, il est nécessaire de reposer l'esprit. Mais la détente dont parle saint Thomas d'Aquin, c'est surtout une détente de l'esprit, et par conséquent, c'est un repos dans une paix, dans une contemplation de l'ordre que Dieu a fait. Ce que je vous dis là est très important en éducation. Et quand on en a pris conscience en éducation, on en prend conscience même dans la vie adulte. Nous sommes toujours dans la dépendance de Dieu, même lorsque nous devons nous reposer. Par exemple, les vacances, puisque bientôt elles vont commencer. Le nombre de parents qui estiment que les vacances sont faites pour les distractions. Oui, nous ne vont peut-être pas le dire comme cela, mais dans la réalité, ça va être ça. C'est-à-dire que les vacances, normalement, sont un temps d'apprentissage très précieux. Parce que pendant l'année scolaire, on est quand même très contrôlé. Pendant les vacances, on est beaucoup plus libre. Et l'apprentissage de la liberté est absolument essentiel à la vie d'un homme. Et donc les vacances devraient apprendre aux jeunes à vivre dans la dépendance de Dieu par lui-même, à se dire « Dieu me voit même lorsque mes parents ne me voient pas », à prendre des décisions. Et on en fait trop souvent un moment de distraction. Après tout, ils se sont donné beaucoup de mal pendant l'année, il est légitime qu'ils en fassent à leur tête, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et puis on va même plus loin, du moment qu'ils ne font pas de mal, tout va bien. Et non, du moment qu'ils ne font pas de mal, ils ne font pas de bien. Ben, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'acte neutre. C'est important, vous voyez, pour la suite, parce que le choix d'un métier doit être guidé avant tout par le désir de servir. Vous allez me dire... Mais on doit s'épanouir dans son métier. Mais on ne s'épanouit qu'en servant. Un homme ne s'épanouit qu'en étant conforme à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est justement de travailler au bien commun et de laisser après soi quelque chose pour le bien commun. Celui qui travaille pour le bien individuel, pour soi seul, lorsqu'il disparaît, ce qu'il a fait disparaît. Surtout s'il a formé des égoïstes. Les égoïstes ne vont pas s'occuper de ce qui les a précédés. Il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Au contraire, le véritable épanouissement est dans le service. Bien évidemment, il faut respecter les capacités. Enfin, les capacités de chacun, c'est une évidence. On ne peut pas aller outre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne connaît rien en maths de faire des mathématiques. On est d'accord. Mais dans les capacités que Dieu nous a données, il y a celles qui sont dirigées vers le service de Dieu, vers le service du prochain. Et puis il y a celles qui sont dirigées vers notre égoïsme. C'est une évidence. Évidemment, cela va très loin. Évidemment, ce que je vous dis remet beaucoup de choses en cause, et très facilement, les libéraux vont profiter de cela pour dire que j'exagère, que ce n'est pas possible, que c'est bon pour une élite, que toutes ces choses. Mais nous sommes tous appelés à la perfection. Les libéraux ne vont pas donner de preuve d'ailleurs. Du simple fait que cela gêne, ils vont dire que c'est mauvais. Et c'est justement ce que je suis en train de vous prouver, que ce critère-là est le plus mauvais de tous les critères. Le critère personnaliste. Bref, il faut achever. Il s'agit d'entrer dans la sagesse de la croix. Monseigneur Lefebvre prêchait tout le temps la croix. La sagesse de la croix, finalement, c'est ce que je vous ai dit, si le grain ne tombe en terre et s'il ne meurt, il ne produit pas de fruits. Nous avons trop tendance à voir la croix comme une destruction, alors qu'elle est au contraire un épanouissement, elle est une consécration. On fait mourir ce qui n'en vaut pas la peine pour vivifier, pour entrer dans les œuvres de Dieu, pour entrer dans la communication avec Dieu, dans l'amitié de Dieu. Le monde moderne s'oppose à la croix, et la croix s'oppose au monde moderne. Le bon Dieu actuellement nous fait porter des croix. Tous les saints, et je voudrais vous inciter à lire la vie des saints, mais tous les saints non seulement acceptent la croix, mais ils vont au-devant et ils aiment la croix. Ils savent que la croix, même pénible, est en réalité une grande source de richesse et les fait entrer dans l'amitié de Dieu. Lisez la vie des saints, soit des saints qui correspondent à votre devoir d'État, des saints parents, des saints humbles, des saints éducateurs, que sais-je, soit des saints qui, au contraire, sont très différents de vous, parce que la différence ouvre les yeux. La vie d'un saint curé d'Ars, par exemple, pour un laïc, on pourrait dire « c'est bon pour les prêtres, ça uniquement ». Eh bien, tous les laïcs qui lisent la vie du saint curé d'Ars disent tous que c'est très éclairant et cela change beaucoup de choses dans leur vie personnelle. Lisez la vie de Monseigneur Lefebvre, même la vie d'un Saint-Louis, par exemple. Bien que vous ne soyez pas roi, Saint-Louis était père de famille, il avait des responsabilités. Finalement, ce sont des saints qui sont assez proches de nous, ça, Saint-Louis, et d'autres comme cela. Et puis, vous avez la vie des martyrs, la vie de la folie des martyrs. C'est très important pour nous montrer la joie, la richesse du martyr. J'ai connu deux garçons, deux jeunes, en classe de première ou terminale, qui, lors du martyr de ce prêtre près de Rouen il y a quelques années, ont été enthousiasmés et ont fait à Dieu la demande de mourir martyr. C'est une demande que le bon Dieu prend toujours au sérieux, cela. Peut-être, s'il y a des dérapages dans leur vie, à cause de cela, le bon Dieu les sauvera et leur donnera le ciel plus rapidement qu'à d'autres. Je vous laisse. Bon courage avec notre Seigneur et avec Notre-Dame qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.